Littérature à thème, votre rendez-vous avec la littérature sur Radio Quiconque-Grogne.
Évadons-nous.
Roman, théâtre, poésie avec Agnès Spiekel-Courdille, le mercredi à 18h15, rediffusion le vendredi à 11h.
Je me suis interrogée sur ce qu'on appelle la littérature pour adolescents ou adolescentes, à travers une discussion avec ma petite fille qui a 16 ans et qui est en train de sortir de cette littérature-là. Et ça a été absolument passionnant, du coup j'y ai un peu réfléchi. Donc c'est une littérature, un ensemble de livres qui se définit non par le sujet mais par le public visé. C'est donc une sous-catégorie du livre jeunesse, puisque le livre jeunesse inclut aussi les enfants. En fait, ce qu'on appelle la littérature pour adolescents ou adolescentes, ce sont des ouvrages qui s'adressent à des 12-17 ans, avec des tranches par âge. On a pour les 12-14 ans, pour les 14-16 ans, pour les 16-17 ans, et puis pour les garçons, pour les filles, c'est très, très codifié. Alors, on a bien sûr des œuvres graphiques, des romans graphiques, des bandes dessinées, des collections de contes, des collections de poches, et on a des séries suivies. Pendant tout un temps, ma petite fille me disait « je voudrais le tome 16 de... » Oula ! Et quand j'arrivais devant le rayon, ben effectivement, il y en avait 20, 25, c'était la série qui se continuait. Il paraît qu'en ce moment... est en tête Mortel Adèle. Alors cela dit, Mortel Adèle, j'en ai lu un passage, c'est très très drôle. Cette littérature pour adolescents s'est organisée autour de très nombreux prix qui sont décernés tous les ans, le prix de l'imaginaire du livre pour adolescents, le prix du livre jeunesse écolo. Bon. Et alors, dans ses meilleures versions, elle est fréquemment utilisée au collège, en cours de français, mais aussi pour enseigner l'histoire. Parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a quand même aussi une base qui se veut sérieuse dans cette littérature. Mais je voudrais d'abord terminer sur sa manière d'être diffusée. C'est utilisé donc au collège et on peut se rendre compte que ce qu'on appelle le pass culture, c'est-à-dire de l'argent qui est versé à tout jeune de 15 à 18 ans tous les ans, que le pass culture a donné un sérieux coup de pouce. J'en discutais avec des libraires. Ils lisent les jeunes quand ils ont 30 euros, 50 euros ou 100 euros. Et je crois qu'à 18 ans, c'est une plus grosse somme. Alors, bien sûr, ils peuvent acheter des places de concert, mais ils viennent acheter des livres ou des BD. Et l'important étant qu'ils entrent dans une librairie. Et quoi que l'on dise, les jeunes sont de gros lecteurs et les tirages de la littérature jeunesse, alors, et je pense ici plutôt la littérature pour adolescents, sont absolument faramineux. La littérature jeunesse, donc en incluant les enfants, c'est la deuxième littérature. Faudrait donner tous les chiffres, mais je n'avais pas envie de vous assommer de chiffres. La diffusion se fait beaucoup par le bouche à oreille et par les influenceurs sur les réseaux. Quand on demande à ces jeunes, mais par qui vous avez appris tout ça? C'est sur TikTok, ou bien c'est ma copine. Il y a des réseaux de lecteurs, il y a bien sûr tous les produits dérivés, mais il y a aussi des expériences d'écriture collective à la manière d'eux. Sur le net, on écrit un roman ensemble, et c'est assez intéressant, comme c'est aussi utilisé en classe, dans les collèges, comme incitation à écrire. On a donc beaucoup de passages par les réseaux, mais la diffusion est essentiellement papier et les rayons des librairies qui sont destinés à la littérature pour adolescents sont très, très impressionnants. Alors, à l'intérieur de cette définition par tranche d'âge, on a absolument tous les genres. Policiers, historiques, récits de vie, fantastiques, science-fiction, sentimental, beaucoup sentimental, surtout vraiment pour les jeunes filles, et psychologiques. On a plusieurs dimensions, une dimension réaliste. Le roman pour adolescents fonctionne comme roman miroir, c'est-à-dire qu'il est centré sur un personnage du même âge. Si c'est 12-14 ans, c'est... Bon. Mais avec quand même et une nuance de tendresse, d'humour, de dérision, avec aussi la question comment se sortir de toutes les embûches. Et ça n'est pas, c'est très très fréquemment, des fins positives, hein, des happy ends. Quelquefois, la fin est sans espoir pour montrer à quel point le réel est difficile. Je viendrai à tous les dangers de cette littérature-là, mais elle n'est pas systématiquement en porte-à-faux par rapport au réel. Parce qu'il y a aussi une sorte de dimension engagée, par exemple, pour dénoncer la guerre. Quand je vous disais que c'est utilisé par les professeurs d'histoire, c'est que, par exemple, les aventures de tel ou tel adolescent peuvent se situer dans des contextes extrêmement difficiles, des contextes historiques qui sont quelquefois relativement bien rendus. Il y a bien sûr aussi une dimension initiatique, c'est-à-dire que les aventures du jeune personnage le font entrer dans un univers de responsabilité, dans un univers où il prend conscience de ses possibilités en même temps que de ses limites. Autrement dit, les aventures qui sont proposées fonctionnent comme un équivalent de l'adolescence elle-même, qui est un passage entre l'enfance et l'âge adulte. Alors, bien sûr, il s'agit d'enchanter, d'instruire, de nourrir, et on peut trouver des côtés positifs à cette littérature, même si vous imaginez bien que j'irai ensuite vers des côtés plus négatifs. Les côtés positifs, c'est d'abord que des jeunes pratiquent la lecture. J'allais dire, peu importe le contenu, je suis pas loin de dire ça. Et pas simplement parce que ça fait du bien pour l'école, mais c'est que cette confrontation entre l'imaginaire et le réel peut les aider à se définir. Ça met aussi quelquefois, je vous le disais, en contact avec des problèmes sociaux, avec des réalités historiques. Et en même temps que le divertissement, c'est-à-dire se détourner d'un réel, s'évader, se détourner d'un réel trop compliqué, il y a quand même une prise de conscience du réel et surtout un apprentissage de la solitude. La lecture est une activité solitaire. Et le jeune qui peut prendre un livre et le lire, et même si son premier contact avec la lecture passe par la littérature adolescente, il n'est pas happé par les réseaux sociaux ou les difficultés avec ses pairs, PAIR, c'est-à-dire les autres adolescents. Et cet apprentissage de la solitude à travers le livre peut être très bonne. Il y a évidemment un enjeu psychologique, mais aussi un enjeu culturel et social, je n'y reviens pas. Mais bien sûr qu'il y a des dangers. En particulier, pour un certain nombre de ces ouvrages, un univers formaté, aseptisé, orienté, je vous le disais, pas toujours, mais quand même, vers les happy ends, et un univers extrêmement genré. Je veux dire que c'est très polarisé vers les jeunes garçons, les jeunes filles. Et c'est... Alors, il y a une évolution, mais c'est quand même très, très marqué. Et puis, il y a aussi le danger de l'enfermement dans l'adolescence. C'est-à-dire que le jeune, même au fur et à mesure qu'il grandit, continue à se définir comme un adolescent. Hein. Ah, les ados. Oui, ça, c'est bien un ado. Ou bien, c'est un pré-ado. Ou bien, c'est... Et cette lecture renforce ce que la société fait aussi et ne permet pas forcément aux jeunes de se définir comme en évolution vers un autre stade. Alors, ce qu'on constate actuellement, et là, tout va dans ce sens-là, c'est heureusement un effacement de ces frontières entre cette littérature pour adolescents et une littérature pour jeunes adultes. Alors, vous allez me dire, c'est parce que les jeunes adultes restent des adolescents, c'est-à-dire des adolescents plus longtemps. Non, je pense aussi que les livres évoluent, même s'il y a une tendance à ce que l'adolescence se prolonge. Mais on assiste quand même à une complexification des récits, une complexification des procédés d'écriture et cette évolution des livres proposés peut accompagner une évolution de l'adolescent vers le statut de jeune adulte vers lequel il va, puisque après le 12-17 ans, qui semble être la limite canonique pour la littérature pour adolescents, bien, il y a 18 ans et on est dans la majorité, même si les choses sont bien évidemment plus compliquées que cela. Alors, j'ai eu envie de de terminer cette chronique par une évocation et une lecture, parce que c'est vraiment très drôle, je ne me souvenais plus, de Harry Potter, qui est quand même le modèle de base. Donc, entre 1997 et 2007, 7 romans centrés sur un jeune sorcier qui a 11 ans au début et qui passe à l'âge adulte à la fin. Je vous avouerai que je n'ai pas lu les derniers volumes. Ce n'est pas par mépris, mais bon, voilà, je lis d'autres choses. Et il est en lutte contre un représentant des forces du mal, puisqu'il est sorcier. Ce qui est intéressant, c'est que les ouvrages sont très ancrés dans la société anglaise des années 90. Il y a eu 8 films. C'est un succès absolument planétaire. Traduction dans 80 langues. Pas beaucoup de livres, ils sont traduits en 80 langues. Et il y a une véritable Pottermania. Alors, j'ai cherché des extraits. Et comme je ne sais pas, je n'avais pas choisir, j'en ai pris un et j'en ai trouvé un très très drôle qui est dans le deuxième tome, Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est un extrait du chapitre 9, tome 2. Et je vous le lis, j'ai trouvé ça très drôle, mais je crois que Madame Rowling a énormément d'humour. Et je vous le disais, c'est quelquefois une caractéristique de cette littérature. L'histoire de la magie était le cours le plus ennuyeux de leur emploi du temps. Le professeur Binns, qui l'enseignait, était le seul professeur fantôme de l'école. Il entrait dans la classe en passant à travers le tableau, et c'était l'unique moment un peu amusant de son cours. D'après ce qu'on disait, Binns ne s'était jamais rendu compte qu'il était mort. Un jour, il s'était levé pour aller en classe et avait laissé son corps derrière lui, installé dans un fauteuil de la salle des professeurs devant un feu de cheminée. Depuis, il avait continué à faire ses cours sans rien changer à ses habitudes. Toujours aussi terne, le professeur Binns consulta ses notes et commença à débiter son cours d'une voix monotone comme un vieil aspirateur essoufflé. Bientôt, tout le monde dans la classe se mit à somnoler, ne se réveillant que par instant pour copier un nom ou une date, puis replongeant dans le sommeil. Il parlait depuis une demi-heure lorsqu'il se produisit quelque chose qui n'était encore jamais arrivé. Hermione leva la main. Le professeur Binns, levant les yeux en plein milieu d'un exposé mortellement ennuyeux sur la convention des sorciers de 1289, parut stupéfait. « Oui, miss, dit le professeur en levant la tête. « Granger, professeur. J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets, » lança Hermione d'une voix claironnante. Dean Thomas, qui regardait par la fenêtre, la bouche ouverte, se réveilla en sursaut. L'avant Brown, qui se tenait le menton dans les mains, releva brusquement la tête et le coude de Neville glissa de la table. Le professeur Binns cligna des yeux. « Je fais des cours sur l'histoire de la magie, » dit-il de sa voix sifflante. « Je m'occupe de faits, Miss Granger, pas de mythes ou de légendes. » Il s'éclaircit la gorge en produisant un bruit semblable à un morceau de craie qu'on casse en deux et poursuivit. « Au mois de septembre de cette même année, un sous-comité de sorciers slaves... » Il s'interrompit en bafouillant. Hermione agitait à nouveau la main. « Miss Grant, excusez-moi, monsieur, mais les légendes ne sont-elles pas toujours fondées sur des faits ?» Le professeur Binns la regardait d'un air tellement ahuri que Harry eut la certitude qu'aucun élève ne l'avait jamais interrompu jusqu'à présent, ni de son vivant, ni depuis sa mort. « On peut en discuter, bien sûr, » dit le professeur d'une voix lente. Il contempla Hermione, comme si c'était la première fois qu'il voyait véritablement un élève. Mais la légende dont vous parlez est cependant tellement extravagante, tellement ridicule. Mais toute la classe était à présent suspendue aux lèvres du professeur Binns. Il regarda d'un œil vague les visages tournés vers lui. Harry se rendait compte qu'il était complètement désarçonné par l'intérêt soudain qu'on lui manifestait.
Retrouvez Littérature à thème avec Agnès le lundi de 14h à 15h sur les 101 MHz de Radio Quiconque Grogne.